Écho d'économie.
149 milliards de francs congolais, c'est ce que perd chaque mois le trésor public à travers des irrégularités dont le fichier de paye des agents et fonctionnaires de l'État. Ceci ressort d'une mission d'audit de l'Inspection générale des finances. Ses conclusions ont été publiées hier jeudi. 20% seulement des entreprises supportent les taxes et impôts de tout le monde. Cela peut conduire à une asphyxie du secteur formel si on ne rationalise pas l'imposition du secteur informel. Déclaration d'Augustin Moutabazi, professeur d'économie à l'Université catholique de Bukavu. Notre invité plaide pour une réforme du secteur de la fiscalité. Bienvenue à tous. Plus de 145 600 agents payés par l'État congolais disposent de numéros matricules incorrects, fantaisistes ou fabriqués pour les besoins de la paye. 5 328 agents disposent à eux seuls plus d'un numéro matricule avec le même nom. 93 356 agents partagent un même numéro matricule avec d'autres agents également payés. 43 725 agents sont payés sans que leur nom ne figure sur les listes déclaratives provenant de leur service d'origine. Et 961 agents chargés du traitement de la paye se retrouvent sur les listes de paye de plusieurs ministères et plusieurs d'entre eux sur plus de 15 listes. Ce sont les conclusions de l'audit du fichier de paye des agents et fonctionnaires de l'État effectué par l'Inspection générale des finances et rendu public jeudi. Ces fraudes occasionnent un manque à gagner mensuel de près de 149 milliards de francs congolais pour le trésor public. Selon le communiqué de l'Inspection générale des finances, certaines irrégularités font déjà l'objet d'une désactivation et la liste de 961 agents de paye sera transmise aux instances judiciaires. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a également instruit l'Inspection générale des finances ainsi que l'Inspection générale de l'administration publique à poursuivre le nettoyage du fichier des effectifs des agents de l'État. Clôture ce vendredi du 16e forum de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE sur l'approvisionnement responsable de minerais. L'édition 2023 de ce forum a été l'occasion d'examiner la mise en œuvre du guide de l'OCDE sur les devoirs de diligence, notamment en RDC, un cadre de référence et d'orientation pour avoir une chaîne d'approvisionnement en minerais qui soit propre en RDC. Les lacunes en termes de gouvernance dans les secteurs des mines et le risque d'instabilité liée à l'insécurité dont sa partie est ne facilite pas la tâche dans la mise en œuvre du devoir de diligence. Participant à ce forum, Philippe Rouvounangiza, directeur de BEST, une ONG qui milite pour la bonne gouvernance dans les secteurs des mines, est plus nuancé. Il estime que des efforts sont fournis et ses propos sont recueillis par Cynthia Bachizi.
Oui, en effet, la RDC a fourni beaucoup d'efforts dans ce secteur, parce que lors de la réforme minière de 2018, le guide de l'OCDE a été domestiqué dans la législation congolaise. Des arrêtés ministériels ont été pris pour mettre en place des manuels de traçabilité, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Les acteurs de la justice civile ont travaillé au monitoring de la mise en œuvre de ce devoir de diligence, mais il faut reconnaître qu'il demeure des défis énormes pour arriver à avoir des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement qui soient exemptes de violations de droits humains.
Notez que plusieurs parties prenantes congolaises ont pris part à ce 16e forum de l'OCDE. Il s'agit des acteurs de la société civile, de membres de la FEC ainsi que des représentants du pouvoir étatique. Le ministère des Finances a organisé jeudi un atelier d'échange entre les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre de 71 projets et programmes financés notamment par la Banque mondiale et la BAD. Pour le ministre des Finances, l'absorption des ressources disponibles n'atteint pas le niveau optimal. Cette situation peu satisfaisante compromet l'atteinte des objectifs de développement de la RDC. Le ministre des Finances a recommandé la recherche d'une meilleure performance en termes d'efficacité. C'est ainsi ainsi que pour obtenir les résultats escomptés, il y a une impérieuse nécessité de réformer les agences d'exécution des projets, mais aussi il y a nécessité d'améliorer la coordination des actions des ministères impliqués et de solliciter un accompagnement accru des partenaires au développement, le tout en tenant compte du contexte congolais. En raison de leur performance dans l'exécution des projets, quelques coordonnateurs ont reçu des brevets d'encouragement de main du ministre d'État des infrastructures, Alexis Guizarro, qui représentait le Premier ministre. Comment valoriser et rendre le café produit en RDC plus compétitif sur le marché international? Cette question a été débattue vendredi par des dizaines d'acteurs locaux et internationaux intervenant dans les secteurs du café. C'était lors d'une première édition de la conférence sur le café congolais organisée par la société locale Congo Agri Consulting. L'objectif est d'améliorer la qualité et la durabilité de marché du café congolais sur l'international. Comment y arriver? Ghislain Kamondo, l'un des responsables de Congo Agri Consulting, répond au micro de Bernard Danyangi.
Cette année, on a pu organiser cette première édition avec le thème « La qualité et la durabilité des marchés de café congolais ». L'année prochaine, on pense organiser la deuxième qui pourra peut-être amener les acheteurs ici localement. Là où ils vont déguster, ils vont voir la qualité du café congolais, les bienfaits du café congolais. Congo Agri a constaté dès le début de la campagne agricole de cette année, qui commence généralement au mois de février, c'est que c'est posé un problème d'acheteurs. Parce que le café est produit au pays, mais il est vendu à l'étranger parce que nous ne le consommons pas assez. Alors maintenant, c'est que les coopératives, pour qu'ils aient l'accès au fonds, c'est-à-dire ce sont des contrats d'achat, qu'ils amènent auprès des banques pour qu'ils puissent acheter. Maintenant, il s'est posé un problème cette année. Les acheteurs n'ont pas donné de contrat aux coopératives, ce qui fait qu'il s'est posé un problème d'achat de café. Le Congo Agri a voulu savoir qu'est-ce qui fait que les coopératives n'achètent pas. En leur posant la question, ils ont répondu que le café congolais a certains problèmes, notamment la consistance et la qualité. Ça veut dire qu'une coopérative peut vous amener le café de 86, de 87 cette année, et l'année prochaine, vous amène le café de 82. À part ça, 82, le score de dégustation. Ça veut dire parce que le café, avant qu'il ne soit vendu à l'international, il y a l'ONAPA qui doit le déguster pour savoir le café qui sera vendu et de quelle qualité. Il est de quel score? C'est sous forme de teneur pour le minerai. Ainsi, ici, on a les K3, c'est-à-dire Kivu 3, on a les K4, Kivu 4, ainsi que les K7. Maintenant, le problème qui s'est posé au niveau des qualités, c'est que les coopératives n'étaient pas constantes. Tantôt les cafés de bonne qualité, l'année prochaine les cafés de mauvaise qualité. Il y a eu ce problème de logistique. C'est que le café congolais est en compétition avec les autres cafés du monde. Alors, quand il est vendu au marché, on sait que le café congolais a un prix élevé par rapport aux autres pays, justement parce qu'il y a un problème dans les zones de production. Il n'y a pas les autres de cet agricole. Quelquefois, il n'y a pas d'agronome qui suivent les producteurs au niveau des chats, qui amènent auprès des coopératives les cafés qui ne sont pas de bonne qualité.
Écho d'économie. Notre invité, c'est Augustin Moutabazi, professeur d'économie à l'Université catholique de Bukavu. Il s'exprime sur la nécessité d'élargir l'assiette fiscale en RDC. Cet expert estime que 20% des entreprises qui représentent tous les secteurs payent pour tout le monde. Cela peut conduire à une asphyxie du secteur formel si on ne rationalise pas l'imposition du secteur informel. Il plaide ainsi pour une réforme du secteur de la fiscalité. Professeur Augustin Moutabazi s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Professeur Moutabazi, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Alors, on a surtout l'impression que les recettes fiscales dépendent beaucoup trop du secteur minier. Est-ce que c'est votre lecture aussi de la situation?
Tout à fait, parce que déjà dans les budgets 2023, les recettes assignées à la DGI représentent 47% des recettes courantes. Ça veut dire que le gouvernement a intentionnellement demandé à la DGI de fournir plus d'efforts. On a demandé moins d'efforts à l'OFIDA, à la DGDA, c'est-à-dire aux recettes liées au commerce extérieur, entrées-sorties, et encore moins d'ailleurs à la DGRAD. Alors quand je dis la DGI, c'est donc la Direction Générale des Impôts. Et les impôts, le gouvernement mise sur l'impôt sur les bénéfices. Et comme vous le savez, les entreprises qui déclarent et qui payent, ce sont les sociétés minières. Outre l'impôt sur les bénéfices qu'ils ont toujours payé traditionnellement, le gouvernement mise sur les super bénéfices des sociétés minières. Parce qu'en fait, avec le boom, avec la hausse des prix du cobalt, du cuivre, pratiquement même le lithium, tout ce que nous produisons en forme de minerais, les sociétés minières font de super bénéfices. Et le gouvernement a réussi à obliger ces sociétés à payer un impôt sur ces super bénéfices. Et c'est ça qui fait qu'on espère qu'on peut arriver à 16 milliards de dollars de recettes budgétaires.
Pour vous, aujourd'hui, il y a lieu d'élargir l'assiette fiscale?
Oui, parce que compter seulement sur... Bon, c'est déjà bien si on peut effectivement imposer les super bénéfices, les super profits des sociétés minières. Mais c'est une manne. La hausse des prix des minéraux, c'est dépend du marché international, donc dépend de l'économie mondiale. Donc ce n'est pas quelque chose de durable. À tout moment, ça peut s'émousser. Et donc, il faut absolument diversifier. Je ne vais pas dire quitter les minéraux, mais en sus des minéraux, il faut que la manne des minéraux puisse profiter à la diversification. Bon, c'est ça ce que je vois, par exemple, avec le ministre de l'Industrie. Bon, en tout cas, je trouve qu'il réfléchit bien. Il lui dit, écoutez, essayons de l'élargir au lieu de vendre le brut, transformons les minéraux localement. Par exemple, cette affaire de l'industrie des batteries électriques. Dans 2, 3, 4 ans, c'est une bouffée d'oxygène. Et on devrait aussi diversifier ces super profits s'ils étaient investis dans l'agriculture. Parce que nous importons malgré tout pas mal de nourriture, hein, dans l'agriculture et l'élevage. L'avantage du secteur agricole, c'est qu'il est moins ingénieux. Il demande moins d'expertise humaine, il demande moins de machines, il demande moins de technologies, ça ne demande pas de brevets. Produire du maïs, ça, c'est du court terme, des haricots, tout ce que nous importons, ou produire les poissons. Nous importons des poissons de la Corée, de la Chine, mais eux aussi sont dans les étangs.
Vous n'avez pas surtout l'impression aujourd'hui qu'on collecte un peu mal? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'optimiser la manière de collecter les impôts, les taxes?
Vous voyez qu'il y a trop de petites entreprises qui échappent à l'imposition, trop de gens qui sont dans des petits métiers libéraux, et ça fait que ce sont les grands, hein, les gens, les entreprises qui représentent 20% du secteur qui sont obligés de payer pour tout le monde. Et donc, on peut en arriver à une asphyxie du secteur formel si on ne rationalise pas effectivement l'imposition du secteur informel. On pourrait bien alléger les pratiques, disons, des modalités justement de recouvrement du secteur des petites et moyennes entreprises. Par exemple, en imaginant un guichet unique, si chaque petite et moyenne entreprise paye, par exemple, en fonction de la taille de chacune, 500 dollars, 1000 dollars ou 2000 dollars.
Ou 10 dollars.
Ou même 10 dollars. Si chaque maman qui circule ici paye 10 dollars, qui fait, ou chaque boutique. Donc, il y a moyen. Il faut une très grande réforme, justement, dans le domaine de la fiscalité.
Aujourd'hui, on parle d'un outil numérique pour collecter, par exemple, tout ce qui est amende transactionnelle. Comment vous accueillez cette nouvelle?
Oui, elle est bonne parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui échappe. Vous voyez, par exemple, nos supermarchés ici. Les gens vendent sans caisse enregistreur. Les factures ne sont pas connues. Comme nous sommes dans un régime de déclaration, ils déclarent le supermarché, les boutiques, les magasins déclarent les ventes qu'elles veulent. Ça fait que le recoupement d'informations au niveau de la DGI est très difficile. Mais si...
Ou au niveau de la DGRAD.
Ou au niveau de la DGRAD. Bon, à l'OFIDA, c'est un peu mieux parce qu'il y a Bivac. Ils ont facile à faire la traçabilité. Mais là, dans les domaines des invisibles, parce que la DGI, c'est la notion de bénéfice. C'est presque une fiction. C'est la comptabilité.
C'est ce que la personne déclare.
C'est ce que la personne déclare. Et donc, l'utilisation du numérique pourrait énormément résoudre ces questions. Par exemple, les sociétés de télécommunications. Qui connaît réellement combien d'argent, quel est le chiffre d'affaires de ces sociétés? J'en vois même ceux qui sont dans le secteur bancaire, la monnaie, tout ce qui est monnaie électronique. Vous voyez quand même quand nous utilisons ces sociétés de
MPSA,
Telmani, ne fût-ce que les frais. Tu envoies 100 dollars, on te coupe 1 dollar. Alors imaginez le nombre de transactions à travers les pays, les montants de chiffre d'affaires qu'on peut imaginer. Il y a bien des choses, effectivement, à l'ère du numérique. Je pense que, c'est vrai, je ne suis pas vraiment un informaticien aguerri, mais je suis sûr que la numérisation peut apporter énormément de moyens qui permettent une traçabilité des opérations commerciales et financières.
Je vous remercie.
Je vous en prie, madame.
Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivie. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la Fréquence de la Paix.